c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement.
En 2016, 1,8 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable dans le monde. 700 millions n'ont aucun accès à l'eau. Autre grand défi, l'accès à l'assainissement, dont sont encore privés 2 milliards et demi de personnes. Pourtant, les solutions existent et nous en parlons avec nos invités. Christelle Malek, coordinatrice de la coalition Eau, qui réunit une trentaine d'ONG françaises. Cassille Brenière, responsable de la division Eau et Assainissement à l'AFD, l'Agence française de développement. Serge Bresse, directeur du département expertise et plaidoyer à Action contre la faim, et Julien Gabert, chargé de mission eau et assainissement au GRET. Julien Gabert, le thème de la Journée mondiale de l'eau cette année, c'était eau et emploi. Et au Cambodge, le GRET accompagne depuis 15 ans les petits producteurs d'eau, justement, et ça marche. Est-ce que vous pouvez partager cette expérience autour du programme ISEA ?
Tout à fait. Au Cambodge, en milieu rural, dans les gros bourgs ruraux, qui sont des petites villes qui font entre 1 000 et 20 000 habitants, sont 400 opérateurs d'eau potable qui amènent l'eau aux ménages par des réseaux de distribution avec des robinets dans les maisons. Donc on est sur des petits opérateurs privés locaux. Et c'est des opérateurs qu'on accompagne depuis une quinzaine d'années au travers de projets. On avait accompagné comme ça 18 opérateurs dans des bourgs ruraux. Et depuis 2012, on a fait la démarche de partir sur une approche par l'entrepreneuriat social qui permet d'assurer plus de durabilité à cet accompagnement des opérateurs. Donc ça se traduit par la création d'une entreprise sociale qui s'appelle ISEA, qui est une entreprise de conseil, d'appui à ces petits opérateurs privés locaux pour mettre en place et gérer correctement des systèmes d'eau potable dans ces bourgs ruraux. Donc l'appui peut être technique, comment construire une station de potabilisation qui respecte les règles de l'art et qui va effectivement distribuer une eau vraiment potable, comment gérer le réseau ensuite, le réparer, recouvrer les coûts pour assurer la pérennité financière du réseau. Et au niveau des investissements, appuyer ces opérateurs aussi à obtenir des crédits bancaires, qui était quelque chose d'assez dur par le passé pour eux, les accompagner pour montrer aux banques qu'ils peuvent emprunter pour développer ces réseaux d'eau et arriver à couvrir les populations rurales du Cambodge.
Oui, et prouver que c'est rentable, hein, et ça marche, puisqu'aujourd'hui, il y a combien d'opérateurs qui couvrent, je ne sais pas, combien de familles, ou je ne sais pas comment vous comptabilisez cela ?
À l'heure actuelle, ce sont 400 opérateurs qui couvrent des villages entre 1 000 et 2 000 habitants. On estime que c'est 1 million de personnes qui peuvent être concernées par ces réseaux d'eau potable.
Oui, donc c'est quand même extrêmement important. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas ailleurs ?
Différence de contexte, c'est des approches qui se développent néanmoins dans d'autres pays. On appuie aussi des opérateurs comme ça économiques locaux à Madagascar, en Mauritanie, au Sénégal. C'est des choses qui sont plus progressives. Au Cambodge, on est aussi dans un contexte de pays émergents où il y a plus de ressources financières au niveau des ménages, même en milieu rural. Et le travail sera peut-être de plus longue haleine dans les autres pays où on est amené à intervenir avec cette approche.
Christelle Malek, ça c'est quand même une belle histoire. On voit que quand on peut concilier justement accès à l'eau et création d'emplois.
Effectivement, la question, enfin, l'entrepreneuriat social, en tout cas l'expérience menée par le GRET a eu beaucoup de succès. D'autres ONG travaillent sur le même secteur, comme OEVI, qui travaille en fait sur l'entrepreneuriat social aussi à Madagascar. Et ça, ce sont des expériences qui à chaque fois permettent d'allier le renforcement en fait des opérateurs locaux avec la mise à disposition de financements au niveau local et donc de créer à la fois effectivement l'emploi et à la fois de permettre aux populations d'avoir accès à l'eau et à l'assainissement. Mais ça marche aussi avec des petits opérateurs ou des opérateurs publics, en l'occurrence. En tout cas, l'important étant de mettre l'accent sur ces communautés, de les organiser et de leur permettre en fait de mener leurs propres projets pour pouvoir en fait avoir accès à l'eau et donc de concilier ce vecteur accès à l'eau et emploi au niveau local.
Cassille Brenière, est-ce que c'est ce type de projet qu'appuie l'Agence française de développement ?
Ben, entre autres, oui, le projet au Cambodge en particulier, hein, puisque c'est l'Agence française de développement qui a mis en place une ligne de crédit pour financer les petits opérateurs privés au Cambodge, qui sont donc appuyés par le GRET parallèlement. Mais on appuie aussi, et je voulais parler là d'un projet qu'on appuie en RDC, donc dans la zone du Kivu, vers Uvira, qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est aussi un projet multi-acteurs où en fait on travaille avec une ONG, Oxfam, mais aussi avec la fondation Veolia, et qu'on est dans une stratégie un petit peu de passage entre l'urgence et le développement, et de passage à l'échelle. Et je crois que pour un passage à l'échelle, c'est aussi aussi il faut mobiliser les compétences de tout le monde et pas les uns contre les autres.
Oui, en fait, ma question, c'était parce que souvent l'Agence française de développement est un peu accusée quand même d'être le cheval de Troie des grosses entreprises françaises où il y a un vrai savoir-faire, c'est vrai, en termes d'assainissement et d'accès à l'eau potable. Mais est-ce qu'il faut toujours avoir en tête cette préoccupation du développement économique local ?
Oui, ben c'est, je pense que c'est une préoccupation qu'on a très largement. Et d'ailleurs, on travaille énormément avec toutes les ONG de la coalition, je pense.
Tout le monde dit oui autour de la table.
Globalement, dans un très bon esprit. Et donc ce projet, justement, il y avait Solidarité, d'ailleurs, qui est aussi une ONG française qui a beaucoup travaillé sur le sujet. C'est un projet de lutte contre le choléra, puisque c'est une zone donc, dans le Kivu qui est endémique du choléra, avec des foyers de rémanence qui restent même en dehors des épidémies, d'où vient le choléra. Et donc, il y avait aussi MSF qui avait travaillé beaucoup et qui avait en fait fait une cartographie assez précise des cas de choléra et donc qui le traitait comme on le traite généralement dans l'urgence avec des pastilles d'eau et de la mise en place de petits points d'eau justement qui restaient juste des points d'eau. Et donc là l'idée ça a été de passer à l'échelle en s'appuyant sur l'opérateur national qui s'appelle la Régie des eaux et en les renforçant justement avec l'appui de la Fondation Veolia qui fait du mécénat de compétences. Et donc c'est un projet de 10 millions d'euros qui est cofinancé par les différents acteurs que je citais, donc l'AFD, l'Union européenne, la Fondation Veolia. Et donc, on est dans une zone très pauvre, où il y a énormément de réfugiés, où on avait une usine d'eau qui marchait très mal, avec des coupures électriques tout le temps, une distribution sur même pas 50% de la population, c'est quand même 250 000 personnes. Et donc, le projet a ciblé pour vraiment amener l'eau avec des tuyaux, des branchements, faire fonctionner l'usine, régler les problèmes énergétiques, etc., à l'ensemble, et en particulier aux zones de rémanence du choléra. Et donc, on a fait suivre ce projet d'un point de vue scientifique sur les impacts santé par la London School of Hygiene. Et ils ont montré que 23% des cas de choléra rapportés dans la ville étaient liés directement à des pannes du système d'eau. Mmh. Donc, un service d'eau.
Donc, on voit
d'eau.
Bien le lien, clairement, entre eau et santé. Oui. Et du coup, quels sont les résultats aujourd'hui ?
Alors, les résultats, c'est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, ça va être encore suivi. Donc, les travaux sont en cours. Donc, ça devrait permettre d'aller plus loin. Mais il y a eu un projet similaire à Calémie avec Solidarité, justement, qui est une autre ville, où on a clairement montré justement que lorsque l'alimentation en eau est continue, les cas de choléra disparaissent.
Alors Serge Bresse, vous, avec Action contre la faim, vous intervenez dans des situations d'urgence. Vous êtes actuellement, par exemple, en Centrafrique, à Bangui notamment. Alors quelle est la situation sur place et qu'est-ce que vous faites dans ce domaine de l'eau ?
D'accord. Peut-être juste rappeler en introduction qu'on est engagé dans ces projets d'eau et assainissement parce que on travaille dans des zones où les taux de sous-nutrition sont très importants, puisque Action contre la faim est avant tout dans la lutte contre la faim par définition, et qu'on sait que l'eau est le manque d'accès à l'eau et à l'assainissement est une des premières causes de sous-nutrition. Donc en RCA, on travaille sur des sites de regroupement dans des quartiers situés à Bangui et à Bossangoa. Et on est sur une réponse en urgence dans ce cas-là. Donc il s'agit d'installer des réservoirs d'eau pour donner un accès temporaire à l'eau potable aux populations, des aménagements de puits, construction de latrines, mais aussi tout ce qui est gestion des déchets, promotion de l'hygiène par des séances où on implique les communautés. Et dans le même pays, on travaille parallèlement sur Bangui, sur un projet urbain de développement, là avec les populations plutôt réinstallées dans Bangui. Et là, on est sur plutôt des constructions d'infrastructures en dur, bornes fontaines, kiosques, avec un travail aussi pour, ça a déjà été évoqué par d'autres intervenants, un travail pour qu'il y ait une gestion aussi à moyen terme de ces ressources-là. Et puis juste un mot sur le Burkina Faso, puisqu'il y avait un reportage là-dessus. Donc on est aussi sur des projets plus long terme. Et au Burkina, par exemple, on a un projet d'assainissement écologique avec des latrines qui permettent de valoriser les déchets pour les réutiliser dans des jardins potagers. Donc ça nous permet en même temps de lutter contre ces problèmes d'accès à l'eau et en même temps d'encourager des pratiques agricoles et l'agroécologie au travers de nos projets.
Alors on va aller à Madagascar dans peu de temps pour parler justement de pratiques agricoles et d'agroécologie. Mais Christelle Malégué, c'est vrai que l'assainissement, c'est vraiment le parent pauvre aujourd'hui de toute cette approche de la gestion de l'eau.
Ben c'est vrai qu'il y a encore 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement. Tout à l'heure, on parlait des objectifs du millénaire pour le développement, autant celui sur l'eau avait été atteint, même si on se rend compte donc qu'il y a encore de forts progrès à faire en termes de qualité, mais autant celui sur l'assainissement, on était loin de l'atteindre en l'occurrence, et que c'est une question qui est assez oubliée en fait, parce que c'est un tabou. Ça a été longtemps un tabou politique. On observe maintenant une amélioration. Mais c'est vrai que c'est encore une question qui est beaucoup moins traitée. On considère que ça fait plus partie de la sphère privée que de la sphère publique. Et il y avait beaucoup moins de financements qui étaient affectés au secteur de l'assainissement. Donc, c'est vrai que cette question a été longtemps mise en retrait. Les objectifs de développement durable en ayant pour objectif un accès à l'assainissement amélioré pour tous, on espère que ça va permettre en fait de jouer un rôle de moteur pour pouvoir aller plus loin. Mais c'est vrai que le rattrapage est très conséquent, beaucoup plus que pour l'eau.
Serge Bresse, rapidement.
Oui, juste un mot sur Ebola. On a beaucoup parlé avec la crise Ebola des problèmes des systèmes de santé, de renforcement de systèmes de santé. Il y a aussi une cause principale au développement de ce type d'épidémie, c'est les mesures d'hygiène de base. On tue le virus Ebola avec du savon. Donc, quand on apprend aux gens qu'on donne les moyens d'avoir des mesures d'hygiène basiques, on lutte aussi contre choléra et toutes ces épidémies de manière très efficace.
On les rappelle rapidement, ces mesures d'hygiène basiques ?
Lavage des mains, lavage de la nourriture, faire bouillir l'eau avant de l'utiliser si elle n'est pas potable. Alors, traitement aussi quand on peut de l'eau, évidemment, quand il y a un petit peu plus de moyens.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Aluma Bele Siri, Elumanangoma Bele Beribsi, Okoroville. Makadma bsemetimani ngabso chimachuya anyura mene kubusa la 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 oh claire
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de l'accès à l'eau dans le monde et de la gestion de cette ressource rare avec nos invités, notamment pour l'agriculture. Alors justement, nous sommes en ligne avec Lionel Rantzinang-Ruiz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Tananarive à Madagascar. Vous êtes responsable du projet MIAR à Madagascar pour AVSF, qui est donc l'ONG agronome et vétérinaire sans frontières. Vous intervenez dans la région des Hautes-Terres, les hauts plateaux de Madagascar, auprès de 1000 familles. Alors expliquez-nous comment, parce que vous leur permettez d'accéder à un kit de micro-irrigation, c'est-à-dire du goutte à goutte, pour changer un peu justement de la pratique de l'arrosoir qui est très répandue dans la zone, et ça permet d'économiser de l'eau déjà.
Exactement. Donc oui, on intervient sur la zone des Hautes-Terres à Madagascar. Le but du projet, c'est de développer ces techniques de micro-irrigation goutte à goutte, donc avec des systèmes à faible coût fabriqués localement avec des entreprises que l'on accompagne, parce que les paysans sont confrontés, notamment à Madagascar avec les effets du changement climatique, à des rallongements de la saison sèche et donc des difficultés pour accéder à l'eau, notamment pour arroser les cultures essentiellement de maraîchage.
Alors ces micro-kits, en quelques mots, on est à la radio, on n'a pas l'image, mais ça fonctionne comment ?
Donc c'est des systèmes assez simplifiés, composés d'une bâche réservoir plastique, en fait, qui fait 250 litres. Sur lesquels, ben voilà, il y a un tuyau PVC, la rampe, qui est connectée à plusieurs tuyaux souples, donc qui vont alimenter les plates-bandes où sont installées les cultures. Après, on a différents modèles avec de taille, sur du 100 mètres carrés jusqu'à 400 mètres carrés, et des différents types de vannes, donc des goutteurs ou des petites valves.
Mais le problème, c'est que ça coûte un peu cher.
Exactement, le prix continue à. On est aux alentours de 50 euros pour des kits de 200 mètres carrés et 50 euros pour des petits paysans malgaches, ça ne reste pas à la portée de tout le monde, loin de là.
Oui, loin de là, comme vous dites. Alors donc, vous montez des programmes pour qu'ils aient malgré tout accès à ces kits et vous faites en sorte qu'ils les remboursent petit à petit. Et en parallèle, vous enseignez des pratiques d'agroécologie mais pour garantir l'humidité qu'il y a dans les sols. En quelques mots, quels sont les enseignements de base ?
Non, exactement. En fait, nous, notre positionnement, c'est de développer ces kits associés avec des pratiques agroécologiques parce que comme je vous disais, l'eau, facteur contraignant dans les hautes terres, surtout en saison sèche. Et puis, c'est des zones proches de la capitale, donc avec des pressions démographiques importantes et des très petites surfaces, donc intérêt d'intensifier. Il y a eu une révolution verte à Madagascar où, comme dans plein de pays, il y a eu une grande promotion de tout ce qui est produits phytosanitaires, intrants chimiques, et qui appauvrissent les sols. Donc l'idée, c'est d'associer des techniques agroécologiques au kit pour préserver ou voire améliorer la fertilité des sols et conserver mieux l'humidité et ainsi préserver les ressources en eau qui sont souvent partagées avec d'autres activités agricoles ou humaines.
Merci voilà. Lionel Rantzinang-Ruiz, donc responsable du projet MIAR pour AVSF, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières à Madagascar. Christelle Maleng, on voit bien qu'il y a des solutions qui existent, enfin tout le monde autour de cette table en a cité, mais dans l'agriculture c'est vraiment essentiel parce que sinon il y a des risques de conflits très forts. Enfin là sur le plateau des Hautes-Terres, il n'y a pas beaucoup d'élevage donc il n'y a pas forcément beaucoup de conflits éleveurs-agriculteurs, mais on le voit dans de nombreuses régions du monde.
Alors, c'est vrai que le lien entre eau et sécurité alimentaire est vraiment crucial. En l'occurrence, dans les pays comme à Madagascar et les pays les moins avancés, on observe, ce sont vraiment ceux qui sont les plus touchés par le stress hydrique, aggravé en plus par le changement climatique. Et ce qui est important de souligner et qu'on a vu dans le reportage, c'est que c'est vraiment en fait les agricultures familiales du Sud qui sont les premières touchées en fait par ces conséquences, parce que les plus en lien avec l'environnement et les plus sensibles en fait au changement de l'environnement. Donc ça c'est vraiment essentiel en fait à souligner. L'autre point qu'on remarque c'est qu'il y a une forte corrélation entre les zones les plus touchées par le changement climatique et celles qui sont les plus impactées par la sous-nutrition. Donc 795 millions de personnes dans le monde souffrent de sous-nutrition et ce sont ces zones où il y a particulièrement le stress hydrique, ces impacts du changement climatique. Et donc c'est vrai que c'est essentiel en fait de trouver des solutions pour ces zones-ci. Et ça passe notamment par les questions d'irrigation goutte à goutte, d'agroécologie et la mise en place de ces techniques pour essayer de capter en fait la ressource en eau, de la préserver, de la retenir, de favoriser aussi son infiltration dans le sol pour permettre en fait de recharger les nappes et donc de restaurer entre guillemets le cycle de l'eau au niveau local, de l'économiser pour que l'eau soit disponible et en quantité et en qualité et qu'elle soit utilisée efficacement par les communautés.
Julien Gabert, avec le GRET, vous appuyez aussi de nombreux projets d'agroécologie, c'est vraiment la solution.
Alors l'agroécologie, malheureusement, c'est pas mon secteur. Effectivement, on a des collègues qui travaillent là-dessus, qui sont assez porteurs, qui viennent de publier d'ailleurs un guide pratique à l'usage des praticiens et des agriculteurs du Sud pour mettre en œuvre cette démarche sur le terrain.
Oui, donc on voit bien que c'est quand même la solution, privilégier le développement des agricultures familiales. Serge Bresse, j'imagine qu'à Action contre la faim, vous appuyez aussi ces démarches.
Tout à fait, on a de plus en plus de projets qui sont intégrés, qui prennent le problème de la sous-nutrition et de la lutte contre la faim de manière intégrée en réfléchissant à l'accès à l'eau, mais aussi à l'accès à une alimentation adéquate. et puis à la réduction des maladies. Il faut citer aussi le travail que ça demande aux femmes d'aller chercher de l'eau et donc qui impacte aussi les pratiques de soins sur les enfants. On est dans des zones, et Christelle l'a bien dit, on est dans des zones où les liens sont très forts entre les deux. Aujourd'hui, les agriculteurs du Sud, pour moi, sont les victimes principales de tous ces problèmes. L'agriculture intensive, entre autres, dans certaines zones du Mali où on a les plus grosses productions agricoles, on a aussi les taux de pauvreté et de sous-nutrition les plus importants. Donc il faut effectivement avoir des systèmes agricoles et des systèmes d'utilisation de l'eau qui soient durables et qui permettent aux populations, dans les endroits où elles vivent, d'avoir accès de manière adéquate à l'eau, à l'alimentation et donc d'être en bonne santé.
Cassie Brenier ?
Oui, je crois que ce qu'on peut dire effectivement, c'est que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en particulier dans ces zones de stress hydrique, chaque goutte d'eau est importante et précieuse. Et donc le fait de l'agroécologie, ça permet à la fois d'en utiliser moins, mais aussi de la stocker et d'avoir l'eau de pluie qui tombe et d'éviter qu'elle ruisselle directement jusqu'à la mer. Et donc ça permet aussi d'augmenter et de garder l'eau. Donc c'est vraiment des méthodes qu'il faut privilégier et que nous on soutient de façon très importante.
Alors Serge Bresse, dans la première partie de l'émission, vous disiez qu'il y a quand même un manque de volonté politique pour l'accès à l'eau potable, enfin pour investir, ça coûte cher, encore plus pour l'assainissement et pour l'agriculture aussi, on peut dire qu'il y a un manque de volonté politique. Donc finalement, quand on regroupe les trois, on se dit qu'il serait temps peut-être qu'il y ait un sursaut.
Oui, et particulièrement dans le domaine de l'eau, dans l'accord par exemple, si je ne dis pas de bêtises, de la COP21, l'eau n'est pas citée. Il n'y a pas une fois la mention de l'accord de Paris sur le climat. L'eau n'est même pas mentionnée. La gouvernance mondiale sur les systèmes de l'eau au niveau des Nations Unies, etc., est très mal organisée par rapport à d'autres domaines, même celui de la sécurité alimentaire, où on a des organismes internationaux. Donc il y a besoin de plus d'engagement de la part des décideurs au niveau international, et aussi, bien sûr, dans les pays où nous on intervient. Il y a deux choses aussi pour moi très importantes, je l'ai signalé au début, c'est les inégalités. Tant qu'on aura autant d'inégalités dans le monde et des développements inégalitaires dans beaucoup de pays émergents, on aura une partie de la population la plus vulnérable, qui n'aura pas accès à l'eau dans les bidonvilles, même en urbain, avec des conséquences majeures pour ces populations-là. Et puis bien sûr, essayer de réduire les conflits, parce que nous on voit sur nos terrains d'intervention, on citait tout à l'heure la RCA, qu'évidemment la paix dans le monde, quelque part, même si ça paraît très global, est nécessaire, ou en tout cas la réduction des conflits, parce qu'aujourd'hui le stress lié à l'eau est aussi dû à ces conflits et ces crises un petit peu partout dans le monde actuellement.
Christelle Malaing, est-ce que vous pensez que cet objectif défini par les 193 pays en septembre dernier d'atteindre donc 100% des personnes en termes d'eau d'ici 2030 est atteignable ?
Alors, pour compléter ce que disait Serge, effectivement, ça sera atteignable si on revoit en fait le mode de gouvernance de l'eau, si on revoit en fait la volonté
politique. Que si on refait le monde, en fait.
Un peu. faut voir aussi qu'en termes de financement, on a besoin de 214 milliards de dollars par an pour avoir un accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Donc, avec les financements actuels, on n'y est pas.
On en est à combien aujourd'hui?
L'AFD est peut-être meilleur que moi en termes de chiffres sur les financements disponibles.
Vous savez combien il y a d'argent sur la table aujourd'hui ?
La question, c'est d'avoir effectivement, il y a besoin de financement. Et de toute façon, les financements internationaux par rapport aux enjeux ne sont pas à l'échelle. Ça, c'est évident. Maintenant, il faut arriver à créer un cadre pour mobiliser aussi des financements locaux, c'est-à-dire à travers le tarif, à travers les budgets généraux des États. Et c'est ça aussi la gouvernance. Il faut savoir en plus que quand on dit oui, mais alors le tarif, c'est pas bien pour les pauvres, etc. En fait, il faut savoir que les pauvres aujourd'hui qui n'ont pas d'eau, ils payent 5 à 10 fois le prix d'un service public. S'ils avaient accès à l'eau à un service au robinet ou même à une borne fontaine, ce serait beaucoup moins cher que les méthodes qu'ils ont aujourd'hui. Donc, c'est des choses qu'il faut pousser. Et effectivement, c'est d'abord au pays de le prendre en charge, de mettre en place ces tarifs qui, d'ailleurs, souvent existent, peut-être de les différencier selon les cas et d'avoir des tarifs sociaux. Et puis, de mobiliser aussi du budget des pays et en complément, évidemment, l'argent des bailleurs de fonds et des pays du Nord.
Christelle Malaing.
Et en dehors des financements en fait, qui ne sont pas suffisants, à l'heure actuelle, il y a aussi la question en fait, des financements qui s'évaporent en fait, pour l'eau, puisqu'il y a 10% des investissements pour l'eau qui partent dans la corruption. Hein. Donc du coup, c'est aussi mobiliser les financements qui sont déjà là. Et pour revenir en fait, à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on va arriver à atteindre ces ODD ? On pourra les atteindre aussi que si on fait bien le lien entre l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable qui ont été adoptés. Parce que autant ces objectifs de développement durable permettent de tracer une trajectoire vers le développement, autant ils seront mis à néant s'il n'y a pas des solutions qui sont trouvées pour le changement climatique et pour permettre de préserver et d'améliorer les progrès qui sont faits en matière de développement durable.
Serge Bref.
Selon l'OCDE, selon les chiffres qu'on a avec la coalition, c'est 6,7 milliards d'investissements sur l'eau par les États.
Donc par rapport aux 114 milliards évoqués, on est très très loin du compte.
Pour des besoins supérieurs à 100 milliards, donc on est bien loin du compte.
Très bien, donc on comprend bien qu'il faut tous se mobiliser. Julien Gabert, j'imagine que vous...
J'abonde dans le sens de mes collègues, oui, effectivement, il faut plus de financement. Il faut aussi, comme on a parlé en début d'émission, travailler à tout ce qui est le renforcement des acteurs du secteur, aussi bien les acteurs publics, souvent les communes par exemple, qui sont responsables du secteur de l'eau et de l'assainissement, les opérateurs de services d'eau qui amènent l'eau, qui amènent l'assainissement, qui vendent des produits d'assainissement ou qui les apportent jusqu'au ménage. Il faut arriver à renforcer tous ces acteurs dans un secteur, je pense en particulier à l'assainissement, qui est vraiment le parent pauvre du développement, qui maintenant, avec les objectifs du développement durable, a une cible dédiée et qui va aussi aller chercher à travailler non pas seulement à équiper les gens en toilettes, mais aussi travailler sur toute la filière, tout ce qui est aussi évacuation de ces eaux usées et leur traitement avant le rejet dans la nature pour pouvoir éviter la pollution de la ressource, encore une fois, et arriver à améliorer la situation.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire ou à réagir, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, #c'estpasduvent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure. Voici la compilation.